Des mots pour le dire. Une émission de Redouane Espanti avec Michel Théron.
Bonjour à tous et à tous et à toutes. Hein. Bienvenue sur le réseau FM+, que vous soyez sur l'agglomération Montpellier-Rennes ou celle de l'agglomération Nîmoise. 91 sur Montpellier, 103.1 à Nîmes. Théologie buissonnière, c'est une manière comme ça de circuler à travers les mots de la Bible, à travers les mots de l'histoire. Une manière aussi de découvrir ce qui se cache derrière les mots, parce que les mots ont une épaisseur que rien ne peut leur enlever, sinon petit à petit élaguer et en comprendre d'où vient cette épaisseur, l'épaisseur de l'histoire, l'épaisseur des mots, l'épaisseur de la théologie, de la pensée aussi, car comme vous le savez, les mots ne sont pas innocents, et c'est ainsi que Michel Théron essaye de nous faire sauter de mot en mot pour faire une sorte de remue-ménage de la culture religieuse et pour nous provoquer, nous titiller dans notre sommeil. Parfois, il faut être vigilant parce que la tradition nous endort parfois. Donc, de temps en temps, il est bon de se réveiller. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane.
Donc, théologie buissonnière, aujourd'hui, on démarre avec un mot qui est plein de sens et que souvent les parents utilisent, obéissance.
Obéissance. Alors, dans la Bible, l'obéissance est le fait d'écouter la voix de Dieu, de lui prêter l'oreille. Ainsi, le mot hébreu « shama » signifie à la fois « écouter » et « obéir ». Et vous savez que le credo juif commence par ce mot même « écoute Israël »,« shema hein, »,« shema »,« écoute Israël ». Le mot grec correspondant à « shama » c'est Upakouein qui signifie à la fois écouter et obéir. En effet, dans Akouein, vous reconnaissez la racine du mot français acoustique, par exemple. Hein. Alors, vous connaissez aussi le proverbe français à bon entendeur, salut. Souvent, ce proverbe est gros d'une certaine menace. Mais en fait, il peut tout aussi bien signifier celui qui écoute bien, c'est-à-dire comme il faut, hein, comme il faut écouter, sera sauvé. Alors au contraire, désobéir dans le grec biblique, c'est parakouein, qui littéralement signifie écouter à côté ou porter son attention sur autre chose, en grec para, donc faire la sourde oreille. Et la désobéissance, c'est parakoé. Alors, en monde chrétien, les théologiens soulignent le fait que la première désobéissance, c'est celle d'Adam. Voici ce qu'on lit dans l'Épître aux Romains 5:19, car comme par la désobéissance, donc Paul écrit parakoé, d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance, alors upakoé, hein, dans le texte grec, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors, cette obéissance d'un seul, bien entendu, renvoie évidemment pour l'apôtre Paul à l'obéissance de Jésus au dessein divin de rédemption. C'est le fameux passage que vous connaissez bien, Redouane, sur l'abaissement ou la kénose du Messie, abaissement qui s'est fait jusqu'à l'ignominie de la mort. Voici ce qu'on lit dans le passage très connu de l'Épître aux Philippiens, 2:7-8. Et ayant paru comme un simple homme, il, c'est-à-dire Jésus, s'est humilié lui-même, voilà, kénosis, la kénose, l'abaissement, se rendant obéissant, upekos en grec, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, vous voyez qu'il y a d'abord une première désobéissance qui est celle d'Adam. Et ensuite, cette première désobéissance est rachetée par la dernière obéissance, qui est celle de Jésus, selon le schéma de la felix culpa. En latin, on dit souvent « felix culpa quae talem actantum meruit habere redemptorem », c'est-à-dire « bienheureuse faute qui nous a valu un tel et un si grand rédempteur ». Voilà, Félix culpa, il s'agit de la faute d'Adam, bien sûr. Et c'est ce schéma qu'on lit expressément dans la première épître aux Corinthiens, 15:22, Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ce schéma est devenu bien sûr celui de la catéchèse orthodoxe. Je pense qu'elle vaut aussi bien pour les catholiques que pour les protestants, hein, Redouane, à peu près. Hein. Donc, première faute, première désobéissance, ensuite obéissance dernière. Maintenant, je me demande, en relisant le passage sur de la Genèse sur la désobéissance d'Adam, si on peut comprendre cette vision. Elle est simple, cette vision. Bien sûr, Adam a désobéi. Mais où est la faute d'Adam? Me semble-t-il, c'est plutôt une incapacité à admettre et pourquoi pas à revendiquer son acte, ce qu'il a fait, prendre le fruit, goûter du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la culpabilité d'Adam est plutôt un sentiment qu'il éprouve, un sentiment de culpabilité et de dénuement qui est matérialisé par la conscience de sa nudité. Voici ce qu'on lit en Genèse 3:10. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Exactement comme dans l'histoire qui suit celle-là, l'histoire de Caïn, le récit, me semble-t-il, concerne plus la question de la responsabilité et des difficultés qu'il y a à endosser cette responsabilité, plutôt que la question de la culpabilité. En effet, Dieu dit à Adam, le Seigneur plutôt dit à Adam, « Adam, où es-tu ?» Et à Caïn, il dit, « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ?» Alors, bien entendu, Dieu est omniscient. Il sait exactement ce qui s'est passé, puisqu'il est omniscient. Donc, ces questions, « Adam, où es-tu ?» ou « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ?» sont des questions à arrière-plan. Dieu, ou l'Éternel, ou le Seigneur ne se demande pas ce qui s'est passé, mais il veut mettre en situation de responsabilité, d'une part Adam et d'autre part Caïn. Alors, le Adam, où es-tu, à mon avis, doit se comprendre par Adam, où en es-tu? Ou bien, reconnais au moins ce qui s'est passé, vous voyez? Pareillement pour Caïn, hein, qu'as-tu fait de ton frère? Alors, la faute d'avoir éludé sa responsabilité en disant, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Quant à Adam, aussi, il renvoie la responsabilité sur Ève, la première femme, vous voyez? Alors, vous voyez, Redouane, on parle souvent de simplicité biblique. Hein. C'est une expression qu'on emploie très souvent. Il me semble que rien n'est plus faux que cette expression et que la Bible n'est pas simple si on sait la scruter en profondeur. Hein. Vous ne voyez pas un peu les choses comme ça?
Oh oui, non, tout à fait. Et d'ailleurs, il faut toujours se méfier quand on dit que les choses sont simples.
Absolument.
Je vais vous expliquer. Généralement, on vient derrière une explication qui nous laisse parfois un peu dubitatif.
Tout à fait, tout à fait. Donc, la Bible n'est pas simple. Hein. C'est que ces textes qui semblent simples ont été simplifiés par la catéchèse ultérieure. Et déjà, les lettres de Paul simplifient le problème. En réalité, il faudrait scruter les textes de plus près. Et pareillement, pour ce qui est de Jésus lui-même, on nous dit que c'est un modèle d'obéissance. Mais la réalité est plus compliquée que cela. D'abord, on sait qu'à l'agonie au jardin des Oliviers, il a d'abord opposé sa propre volonté à celle de son père. « Père, s'il se peut, éloigne de moi ce calice. » Donc, il n'y a pas une obéissance première. Hein. Mais il est vrai, bien sûr, qu'ensuite, Jésus s'est résigné à la volonté du Père. Mais on ne peut pas parler d'obéissance exempte de doute. Hein. Par exemple, les monothélites, qui étaient une hérésie, hein, qui a été considérée comme une hérésie, une seule volonté, hein, monon téléma. Les monothélites disaient qu'il y avait entre le Fils et le Père unité de volonté. Eh bien, ils ont oublié ce passage. « Père, s'il se peut, éloigne de moi ce calice. » Et puis aussi, le dernier cri tragique du Golgotha que tout le monde connaît, dans deux des quatre évangiles, celui de Marc et celui de Matthieu, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» eh bien, montre que cette obéissance n'a pas été exempte, précisément, de doute. Hein. Alors, ce « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» tout le monde sait qu'il est le début du psaume 22. Eh bien, il me semble que cela jette sur l'obéissance de Jésus une ombre très singulière. Alors, vous savez que le psaume 22, c'est la matrice essentielle des récits évangéliques de la Passion, qui ont été reconstruits, justement, à partir de ce psaume par le procédé du Midrash, hein, c'est-à-dire un commentaire interprétatif en monde juif. Alors, évidemment, la fin du psaume 22, elle pouvait conduire à une autre adhésion de la part du croyant, qui aurait rasséréné et consolé l'âme du fidèle. En effet, nous lisons au verset 25 du psaume 22, « Car le Seigneur n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie vers lui. » Mais justement, Jésus, si l'on croit la version de Matthieu et de Marc, n'a pas prononcé la fin de ce psaume. Peut-être n'a-t-il pas eu le temps de le faire, étant mort avant. Vous voyez ? Alors nous allons écouter maintenant un extrait de la Passion selon saint Matthieu de Bach, qui incarne ce moment de doute, ô tête couverte de blessures et de sang.
Des mots pour le dire, toujours avec Michel Théron, donc le mot d'aujourd'hui, obéissance. Et voilà cet extrait de la Passion selon saint Matthieu, de Bach, qui en dit long hein, sur l'obéissance. Et drôle d'obéissance.
Oui, et sur la kénose, sur l'abaissement. Hein. Alors, on a tiré argument de l'obéissance de Jésus, non seulement à la volonté de son Père, mais aussi à celle de ses parents, pour prôner l'obéissance aux autorités. En effet, Luc écrit concernant Jésus, ses relations avec ses parents, et il leur était soumis. Luc 2, 51. Cette remarque concerne un grand nombre d'années de la vie de Jésus, exactement les années qui séparent le moment où, enfant, il fréquentait les docteurs de la synagogue, et le moment où, adulte, il se fit baptiser par Jean. Donc, quand Luc écrit « Et il leur était soumis », c'est vraiment un laps de temps extrêmement long. Ça suit le passage de Jésus avec les docteurs dans la synagogue, et ça précède le baptême de Jésus par Jean. Donc, il y a une très longue période de soumission remarquable de la part de Jésus, qui précède le tout petit nombre d'années de son ministère public. Et alors, moi quand j'étais enfant, le catéchisme me disait, c'était un catéchisme très normatif, qu'il fallait tirer argument de cette soumission de Jésus à ses parents pour prêcher celle que les enfants doivent en général à leurs parents. Je ne sais pas si c'est usage aussi en monde protestant, Edouane, d'avoir cette...
ça dépend surtout en particulier du caractère du catéchète, généralement.
Ouais, ouais.
Parce que, vous savez, que ce soit en théologie comme en humanité, tout dépend du caractère de la personne.
Absolument, ah oui, vous avez bien raison, oui. Mais quand même, cette soumission de Jésus, a servi d'exemple. Et à partir de là, on comprend que Paul, ou bien celui qui écrit sous le nom de Paul, d'abord, et ensuite les épîtres pastorales, conseillent systématiquement la soumission aux autorités. Voici ce que Paul, ou celui qui écrit en son nom, écrit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Vous voyez, là, tout pouvoir vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Épître aux Romains 13, 1, 2, vous voyez. Bon, c'est assez remarquable quand même ce passage. Tout pouvoir vient de Dieu. Quant à l'Épître à Tite, on y lit, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, ainsi que d'obéir. » Tite 3, 1. Et enfin, dans la première lettre de Pierre 2, 13, nous lisons, « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, » soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. C'est là, il me semble, que se situe la part conservatrice du christianisme. Et cette part conservatrice a été, tout le monde le sait, promise à un grand destin. Bien sûr, je crois que ce que je viens de dire... à savoir que le christianisme est conservateur et soumis aux autorités en place, vaut bien moins pour les protestants que pour les catholiques, et surtout, je dirais, les orthodoxes. Hein. Tout le monde sait que l'Église orthodoxe, elle est volontiers conservatrice, et qu'elle s'est souvent rangée dans l'histoire aux côtés du pouvoir en place, pour citer le cas de l'Église grecque ou bien de l'Église russe, etc. Est-ce qu'elle s'est inspirée alors des passages que je viens de citer sur tout pouvoir vient de Dieu? Il me semble que les protestants sont quand même plus indépendants.
Oh, ça dépend. Par exemple, lors des guerres de religion, en fait, on se soumettait à la volonté du roi. C'est-à-dire que ce n'était pas une lutte contre le roi, mais une lutte pour la reconnaissance de la foi réformée. Donc, le respect des autorités, en fait, a toujours été présent dans l'esprit du protestantisme. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas remettre ou interpeller le pouvoir en place. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui va amener les protestants, de par leur histoire, aussi à se distancer du pouvoir, hein, à revendiquer une laïcité, de choses qu'on revendique aujourd'hui. Effectivement, l'Église doit agir dans l'espace qui est le sien, ouais. Mais en aucun cas soumis aux autorités.
Vous avez prononcé le grand mot, voilà. Laïcité. Laïcité.
Tout à fait.
Ouais, c'est-à-dire la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Il est évident que les protestants ne pouvaient pas admettre les dragonnades, par exemple sous Louis XIV, ces dragonnades que Bossuet lui-même approuvait. Hein. Donc là, il y avait une dissidence et une résistance, il ne pouvait pas y avoir d'obéissance. Alors, en Église, on parle aussi de l'obéissance que l'on doit à l'institution. Hein. Tout le monde connaît l'expression « extra ecclesiam nulla salus », c'est-à-dire « hors de l'Église, point de salut ». Cette expression sert pour combattre les hérétiques. Hein. C'est une phrase latine de Saint Cyprien de Carthage. Hein. La phrase exacte, c'est « salus extra ecclesiam non est », c'est-à-dire « le salut n'existe pas hors de l'Église ». Elle se trouve dans les lettres de Cyprien. Alors, l'Église signifie ici la communauté eucharistique. en sorte que s'écarter de cette communauté, c'est être excommunié, c'est-à-dire mis en dehors de la communauté, donc rejeté hors de cette communion. Mais comme c'est l'Église, en milieu catholique au moins, qui, par l'intermédiaire du clergé, administre les sacrements, hein, et que ces sacrements permettent précisément cette communion, il faut donc se soumettre aux représentants de l'Église et leur obéir. Bien sûr, cela ne vaut pas en monde protestant, où tout fidèle baptisé est prêtre, selon l'idée chère à Luther, de sacerdoce universel. Alors, on connaît aussi, peut-être, l'expression jésuite, perinde ac cadaver, qui signifie comme un cadavre. Eh bien, il paraît que c'est saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, qui a fait de ce mot la base de la discipline de son ordre. Et il voulait faire entendre par là que les membres de la Compagnie de Jésus devaient être soumis aveuglément aux volontés de leurs supérieurs, sans opposer plus de résistance qu'un cadavre. Alors bien sûr, en creusant, on voit que l'obéissance passive ici n'est pas absolue pour Ignace. Hein. Ignace avait mis cette restriction in omnibus ubi peccatum non cerneretur, c'est-à-dire dans toutes les choses où l'on ne voit pas de péché. Donc, se soumettre comme un cadavre dans toutes les choses où l'on ne voit pas de péché. Néanmoins, aujourd'hui, cette obéissance à quelque chose de si anormal que le perinde ac cadaver, comme un cadavre, est passé presque en proverbe pour signifier la servitude. Alors, cette question de l'obéissance, c'est une question cruciale, peut-être la plus importante qui soit quand on aborde l'histoire des hommes. Tocqueville disait très bien « La nature du maître m'importe moins que l'obéissance ». Et je dirais que cette question de l'obéissance au pouvoir, en place, au pouvoir au-dessus de nous, elle est plus importante même que celle de la perversité ou de la méchanceté de certains d'entre nous. L'obéissance, en effet, concerne le grand nombre, tandis que la perversité ne concerne que quelques-uns. Et il me semble qu'il y a plus de crimes qui se commettent sur la terre par obéissance passive ou aveugle, c'est-à-dire par laisser-faire, au fond, qu'il y en a qui se commettent par scélératesse. Et même Charles Péguy disait que celui qui laisse faire est plus coupable que celui qui fait. Car celui qui fait, il a au moins le courage de faire. Tandis que pour celui qui laisse faire, il y a la lâcheté en plus. Hein. Donc, vous voyez, ça nous fait bien réfléchir. Cette question de l'obéissance passive, elle est posée par Alfred de Vigny dans un livre dont le titre est éloquent, « Servitude et grandeur militaire ». Vous voyez, est-ce qu'il faut toujours obéir à ses supérieurs? N'a-t-on pas parfois un devoir de désobéissance? Par exemple, en période troublée, ne faut-il pas distinguer le légal du légitime? Sous Vichy, il était légal, justement, de rafler les Juifs. Mais est-ce que c'était légitime, c'est-à-dire à l'égard de la conscience morale? Par exemple, les mutins de 1907 aussi, dans la révolte des vignerons du Midi, ils ont décidé de ne pas obéir à l'ordre qu'ils avaient reçu. L'autorité militaire est tellement machiavélique là-dessus qu'elle a inventé alors les fameux pelotons d'exécution panachés, c'est-à-dire des pelotons d'exécution où un fusil sur deux seulement est armé d'une balle véritable, le reste étant chargé à blanc, pour éviter justement les conflits de conscience dans l'âme de ceux qui participent à ces pelotons. Donc je pense que vous en serez d'accord, Edouane, que parfois il y a devoir de désobéissance.
Hein? Ah oui, constamment, devoir de désobéissance, parce que justement, le problème souvent, c'est qu'on fait passer l'ordre avant l'humain. Et je crois que l'histoire humaine montre que chaque fois qu'on a cédé à la tentation de l'institution, c'est-à-dire l'institution avant l'humain, le matérialisme avant l'humain, c'est notre humanité qui se dégrade. C'est notre vivre ensemble aussi. C'est les résistances, ce qu'on appelait aussi les justes, hein, le combat des justes. Il y a des lois justes et des lois injustes, et il ne faut pas obéir aux lois que l'on considère injustes.
Tout à fait. Comment se fait-il que tant d'hommes obéissent sans réfléchir ? C'est le sujet d'un grand texte de la Boétie qui s'appelle « De la servitude volontaire hein ». La Boétie se demande comment un grand nombre d'hommes peuvent-ils consentir à leur soumission et obéir à un tyran qui les opprime et contre lequel il serait pourtant bien facile, vu la disproportion objective, quantitative des forces en présence, de se révolter. Eh bien, la cause de cela, elle est d'ordre psychologique. En effet, par réflexe, nous projetons sur le supérieur, en réalité celui que nous imaginons supérieur à nous, hein, une aura, c'est-à-dire un charisme, une réputation qu'en réalité il n'a pas, hein, et dont il va profiter. Le professeur américain Stanley Milgram a bien démonté ce mécanisme dans un livre essentiel qui s'appelle « Soumission à l'autorité » et que Henri Verneuil a repris dans son film « I comme Icar ». On recrute quelqu'un pour, soi-disant, un milieu médical, faire des expériences sur la mémoire, et il y a un cobaye, en quelque sorte, justement, qui est chargé. Alors, la personne recrutée est chargée d'envoyer des décharges électriques à la personne que l'on interroge sur la mémoire si elle répond mal. Alors bien entendu c'est truqué, les décharges sont fictives, mais il se trouve que l'ambiance médicale, les blouses blanches, etc. font que la personne recrutée, qui est celui sur lequel porte l'expérience, va envoyer je ne sais plus combien de volts l'acteur qui joue le personnage qui est censé ne pas se souvenir. Hein. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y a les blouses blanches, il y a l'apparat, il y a le contexte médical. La Fontaine dit très bien dans une fable qui s'appelle « Le paysan du Danube » « Rome est par nos forfaits plus que par ses exploits l'instrument de notre supplice ». Mais la Boétie disait déjà à propos des grands auxquels on se soumet « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Nous allons écouter maintenant une chanson qui nous le fait comprendre.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même. jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice qu'en ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Des mots pour le dire. Alors Brassens qui donne une nouvelle définition, une nouvelle approche sur le mot obéissance à Michel.
Obéissance, je me suis fait tout petit. Cette chanson, il me semble, peut nous éclairer sur les conditions véritables de nos soumissions. Nos soumissions, en fait, viennent de nous. Elles ne viennent pas de l'extérieur si on y réfléchit bien. Il faudrait ici opérer une sorte de révolution copernicienne. Vous savez qu'avant Copernic et Galilée, on pensait que le Soleil tournait autour de la Terre, et depuis on sait que c'est l'inverse, la Terre tourne autour du Soleil. Eh bien, on pouvait penser autrefois que l'obéissance était garantie par justement la qualité particulière de celui qui l'exigeait. Et quand on fait la révolution copernicienne, un peu comme Kant l'a fait pour les conditions de la connaissance, hein, on s'aperçoit que tout vient de nous, tout vient de notre propre esprit. L'obéissance ne fait justement qu'émaner de notre imaginaire, des projections mentales que nous faisons sur les choses. Dans la chanson de Brassens, bon, elle est dite sous le ton badin, mais enfin, il y a quelque chose de tragique, hein. Il y a une disproportion entre l'objet, justement, de l'amour et puis les dégâts qu'il cause. Tout le monde connaît l'expression « tomber amoureux ».« Tomber amoureux », c'est une chute. « To fall in love », hein, « tomber ». Et vous savez, Redouane, qu'un homme nul n'est déjà pas beau à voir, mais il y a quelque chose de pire, c'est un homme annulé. Annulé, par exemple, par la passion qu'il éprouve pour une femme. Je pense, par exemple, au film de Sternberg, L'Ange Bleu, où on voit le professeur Unrath, hein, en fait, Unrath, hein, le surnom qu'on lui donne, eh bien, tomber amoureux et déchoir par la passion fatale que lui inspire Marlène Dietrich dans le film, hein. Alors, pour comprendre bien que l'autorité est affaire de projection mentale ou d'imagination, hein, il suffit d'enlever ses attributs à celui que nous parons de tout prestige. Alors là, il y a une anecdote que j'aime bien. C'est celle qui est arrivée à notre président de la République, Paul Deschanel. Le 23 mai 1920, il est tombé en pleine nuit du train présidentiel et il s'est promené en pyjama le long de la voie. Donc, si l'on note tout son décorum au président de la République, hein, alors tout va s'écrouler. Le garde-barrière qui l'a recueilli ne voulait pas croire qu'il était le président de la République. Pourtant, ce que disait Paul Deschanel, c'était un homme dépressif, hein, et il était sous l'emprise aussi de médicaments. D'ailleurs, il a démissionné à la fin de cette année-là, vous voyez. Mais alors, il y a quelque chose d'amusant, c'est que la femme du garde-barrière aurait dit, mais c'est peut-être vrai, en le déshabillant, hein, c'est peut-être vrai qu'il est président de la République parce qu'il a les pieds propres, vous voyez, il a les pieds propres. Enfin, quoi qu'il en soit, si l'on enlève au président de la République sa garde républicaine, ses limousines noires, tout son escorte, etc., eh bien, tout son prestige va... Vous voyez, Edouard, et pareillement... Alors, Pascal a parlé ici de la force de l'imagination, hein. La robe des juges, la robe des médecins, et je dirais, Edouard, vous me direz ce que vous en pensez, la robe du pasteur, hein. Comme l'habit du prêtre, hein. sont des signes qui tirent leur force du crédit ou de la confiance de la fiducia. Fiducia, c'est un mot latin qui veut dire confiance, que nous leur donnons. Hein. Et bon, je ne sais pas ce que vous en pensez de leur occupation.
Oui, non, mais c'est aussi, disons, des repères sociaux qui nous permettent d'évaluer ou de nous situer. Oui. On le voit, par exemple, c'est vrai que certains collègues qui ne portent pas la robe pastorale, lorsqu'il y a des célébrations œcuméniques, pour être repérés ou non dévalués par rapport à la robe du prêtre, mettent leur robe. Donc c'est faire reconnaître cette autorité, c'est-à-dire oui. Je suis revêtu de l'autorité et donc...
Oui. Est-ce que les paroles que vous prononcez en acquièrent plus de crédit, mystère.
L'habit ne fait pas le moine.
Ah voilà, très bon proverbe, très bon proverbe. Donc, la Boétie, je rappelle son mot essentiel qu'il faut bien mémoriser, hein, « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux devant eux. » Et si nous sommes à genoux, c'est parce que nous les voyons de bas en haut, c'est-à-dire en contre-plongée. Vous voyez, moi je suis aussi photographe et je sais très bien que pour magnifier un sujet, il faut que l'opérateur se situe en bas par rapport à son sujet pour le grandir, hein. Si au contraire nous voyons les prétendus grands de haut en bas, en plongée, alors eh bien, nous en aurions une vision bien moins flatteuse, une vision plus dépréciatrice, vous voyez. Bon, il serait aplati, écrasé par la perspective. Regarder de haut, en latin, se dit « despicere ». Et « despicere » signifie aussi « mépriser », hein. Regarder quelqu'un de haut, vous voyez. Donc, il y a d'abord un regard, je dirais, magnifiant ou hyperbolique. Hyperbolique, c'est-à-dire qu'il grandit les choses, hein. Par exemple, l'enfant voit ses parents de manière hyperbolique. Sa mère est une géante et son père est un géant, hein, parce qu'il est tout petit. Hein. Mais ensuite, l'enfant grandit, et en grandissant, parfois, surtout maintenant, avec les générations modernes, eh bien, il dépasse en taille ses propres parents. Et donc, à ce moment-là, on voit le père de haut en bas. Et alors, vous savez... Hugo dit « Mon père, ce héros au sourire si doux ». Eh bien, Georges Forest, un poète fantaisiste, disait « Mon père, ce zéro au sourire de Saint-Doux ». Vous voyez ce que disait Forest. Donc, ça veut dire qu'on passe du regard admiratif ou hyperbolique de l'enfance au regard dépréciatif de l'adolescence. Hein. Et dans le monde littéraire, comme je suis ancien professeur de français, le monde magnifiant et hyperbolique, c'est celui de l'épopée, qui est la forme littéraire adaptée à l'enfance des peuples. Et au contraire, le regard dépréciatif, le regard de haut en bas, le regard en plongée, c'est celui du roman. Où dans le roman, on assiste à la désillusion. Hein, les idéaux s'écroulent. Don Quichotte, par exemple, ou Madame Bovary. Hein, c'est un roman du désenchantement. Alors, voilà les deux regards. Hein. Il y a un film que j'aime beaucoup. C'est le film « Le cercle des poètes disparus ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, Redouane. C'est un film de Peter Weir. Hein,
très, très beau film.
Qui est sorti en 1989. Alors, le professeur Keating... veut ouvrir les yeux de ses étudiants et il ne veut pas qu'ils obéissent aveuglément ou qu'ils obéissent par réflexe, hein. Et pour les accoutumer alors au perspectivisme des visions, au relativisme des visions et éviter qu'en société ils ne fonctionnent que par réflexe, il les fait monter sur les tables, hein. Et alors là ils auront un regard surplombant, un regard de haut en bas, un regard dépréciatif, vous voyez. Alors, bien sûr, je ne sais pas si un tel conseil est encore actuel, en une époque où, bien souvent, les élèves montent d'eux-mêmes sur les tables, vous voyez, dans les collèges, par exemple.
Oh, ça dépend. Là, on est situé dans un collège qui est anglo-saxon, donc la relation d'autorité chez les anglo-saxons est très différente. Nous, on est plutôt un esprit rebelle, peu anarchiste, et c'est vrai que mai 68 a bien marqué encore aujourd'hui les générations quant à la résistance, ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire... résister à certaines autorités, parce qu'il y a besoin aussi de résister à l'autorité. On le voit actuellement, la résistance des lycéens à la mutation, enfin à la mutation aux réformes que veut introduire le ministre de l'Éducation.
Voilà. Moi, je pense que la pire des choses serait l'esprit moutonnier. Hein. Par exemple, professeur Keating, dans le même film, eh bien, il dispose de ses étudiants en file indienne, et puis il fait courir le premier, et puis les autres suivent comme des moutons, hein, parce que le premier s'est mis à courir, les autres courent. Le mouton, comme dit Rabelais dans le fameux épisode des moutons de Panurge, c'est le plus inepte animal du monde. Hein. Il suit toujours le premier, il se conforme à ce que fait le premier. C'est pour ça que Panurge jette un premier mouton par-dessus bord, et pour se venger du marchand, hein, et alors tous les autres moutons plongent à la suite du premier et vont se noyer. Alors, ce qui est pire, la pire des choses, c'est l'obéissance par réflexe. Hein, par réflexe. Maintenant, je vais développer une obéissance beaucoup plus intelligente, qui serait l'obéissance par mûr examen et mûr réflexion. Non pas par réflexe, mais par réflexion. Cette obéissance est bien plus noble, sans doute, que la première. Il ne s'agit pas d'obéissance passive, hein, la passivité conformiste, etc. Mais pour cette obéissance par réflexion, alors le mot grec, le grec a un très beau mot, qui est peitestai, qui veut dire à la fois être persuadé et obéir. Vous savez que le grec, pas plus qu'il ne voit une raison de pardonner, s'il n'a la compréhension d'une excuse, pardonner se dit en grec sungignoskein, c'est-à-dire entrer dans la compréhension des choses, comme plus tard en latin vous aurez ignoskere, hein, nous avons développé cela dans l'émission sur le pardon, eh bien, pas plus qu'un grec ne pardonne s'il ne comprend l'excuse, le grec ne voit aucune raison d'obéir s'il n'est pas persuadé, peito, peitestai, qu'il a raison de le faire. Alors, le mot peitestai existe dans le Nouveau Testament pour signifier l'obéissance à une vérité, vérité qui doit donc faire l'objet pour chacun d'une compréhension au fond de soi-même. On lit dans l'Épître aux Galates, Galates 5, 7, « Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Alors, obéir, là, c'est peitestai, hein, peitestai. Ce n'est pas upakouein, comme au début, hein. Donc, on a peitestai à plusieurs reprises. En Romains 2, 6, vous avez « Ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. » Et c'est remarquable qu'il y ait toujours la vérité, hein, à côté de peitestai. Hein. Bon, l'obéissance, dans le cas de peitestai, signifie un sentiment intime, réfléchi au fond de soi, une adhésion non pas par esprit moutonnier, mais par véritable conviction. Hein. Et il est dommage, je dirais, que ces passages où peitestai est employé dans le grec du Nouveau Testament soient si peu nombreux. Et surtout, il est dommage que la Vulgate traduise dans le Nouveau Testament aussi bien upakouein que peitestai, peitestai, par le seul mot obédire, qui a donné notre mot français obéir. Hein. Donc la Vulgate ne fait pas la différence entre une obéissance potentiellement aveugle et une obéissance réfléchie. Alors, on retrouve ici notre proverbe initial, « à bon entendeur, salut hein. ». Dans l'expression « à bon entendeur, salut », il faut faire porter tout le sens dans « bon entendeur ». Il faut faire porter le sens sur le qualificatif, « celui qui écoute avec attention ». Le Nouveau Testament dit aussi très souvent, l'Évangile dit « qui a des oreilles pour entendre, entende ». Entendre, ça veut dire comprenne, hein, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il comprenne. Et j'avais dit, une des émissions précédentes, Redouane, que le bonnet d'âne était là pour agrandir nos oreilles. Hein. Autrefois, parce que l'âne était supposé, ayant de grandes oreilles, entendre mieux. Et donc l'élève, le cancre, on lui mettait le bonnet d'âne, moins pour le stigmatiser que pour l'aider
à mieux entendre.
À mieux entendre, vous voyez. Donc, je pense que ça n'existe plus maintenant, le bonnet d'âne.
Heureusement.
Heureusement, oui. Voilà, symboliquement, il était intéressant, hein, les grandes oreilles. Donc, je vois le Christ comme notre enseigneur, celui qui nous enseigne. Là, je n'engage que moi, bien sûr. Hein. Et cet enseigneur nous appelle à trouver sa voix, hein, V-O-X, et sa voix, V-O-I-E, hein, Odos Kyrio, qui est l'équivalent, la voix du Seigneur, hein, qui est l'équivalent de la Halakha, pour les juifs. Hein. Donc, il nous appelle à trouver sa voie par réflexion menée au fond de nous-mêmes. Mais ensuite, notre enseigneur est devenu, alors malheureusement pour moi, notre seigneur. Et à ce seigneur, nous devons faire allégeance, donc précisément obéir au sens traditionnel, puisqu'on nous dit que Jésus lui-même a été en son temps un modèle d'obéissance. Alors voilà le débat. Hein. Est-ce que Jésus est un éducateur, un instituteur, ou bien un prophète aussi, hein? Ou bien est-ce qu'il est un Dieu incarné comme on l'a affirmé à Nicée, en 325 après Jésus-Christ, vous voyez? Donc je respecte bien sûr toutes les options, hein, mais personnellement je trouve qu'il est dommage que cet enseignement qui était si beau et qui devait, nous faire trouver la conviction au fond de nous-mêmes. Donc l'obéissance est quelque chose dont on comprenait la raison d'être. Il est dommage que cela ait été remplacé par des relations de serviteur à maître, si vous voulez, et des relations alors verticales. Le compagnon ou l'instituteur de la parole étant devenu un Dieu incarné, devant lui, nous sommes sommés de baisser la tête. C'est ça l'enjeu de Nicée, vous voyez. Et quand je parlais par parenthèse, de la soumission de l'Église orthodoxe, il est remarquable que l'orthodoxie ne prononce que le symbole de Nicée. Hein, le symbole de Nicée, et pas le symbole des apôtres, où Jésus est plus humain. Dans le symbole de Nicée, Jésus descend des cieux, et puis il remonte, et nous devons baisser la tête. D'où peut-être corrélée à cela la soumission devant les pouvoirs en place. J'ai choisi pour terminer cette émission la belle chanson de Léo Ferré, qui s'appelle « Ni Dieu ni Maître ». Alors, tout le début est assez surréalisant, c'est-à-dire, ce dont il est question, c'est une exécution capitale, au petit matin, hein, au nom du peuple français, du temps que, en France, la peine de mort était encore en vigueur. Hein. Mais à la fin, vous écouterez bien, vous verrez que Ferré oppose la parole d'évangile, qui précisément alimente la soumission, parce qu'elle passe dans la doxa sociale, à la voix du prophète. Et la voix du prophète appelle, elle, non pas à la soumission, mais à la désobéissance. Et il est remarquable que Ferré, qui est soit agnostique, soit athée, puisqu'il y dit ni Dieu ni maître, à la fin, se prononce, se dit qu'il est prophète. Cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître. Vous voyez, la fin, c'est cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles, et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style, le sinistre décorum de la peine de mort, ce cri qui n'a pas la rosette, c'est pas la Légion d'honneur, cette parole de prophète, vous voyez, prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître. Contre la société qui a annexé l'évangile pour en faire une loi sociale, Ferré défend l'esprit prophétique.
Merci Michel, ainsi se termine notre émission. On fera nous deux une pause, mais pas l'émission puisque ce sera l'occasion de faire quelques rediffusions. Et le mot que nous vous proposons pour la semaine prochaine en rediffusion, ce sera espérance. Entre aujourd'hui et puis l'année prochaine quand on se retrouvera, nous espérons que vous porterez bien, que vous profiterez de ces fêtes de fin d'année, à la fois pour faire une pause et pour obéir et désobéir peut-être aux lois du marché. C'est une manière de vivre de manière paisible avec son monde. Léo Ferré pour nous quitter. À bientôt. Au revoir Michel.
Au revoir.
La cigarette sans cravate, on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. C'est quoi que l'on dit de Jésus, et qui pousse dans les supplices, et pour meubler le sacrifice, avec le sapin de ses lavis. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître.